J'ai oublié les enfants. C'est pas grave, on va demander aux enfants de monter. Et puis, la prière était pour eux aussi, ils pouvaient monter en haut. La prière était pour eux aussi, que le Seigneur ouvre leur cœur, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent saisir les merveilles de sa parole. Ah, désolé. Laissez-moi commencer en vous posant une question ce matin. Une question peut-être qui va vous amener à réfléchir. Question existentielle, des fois, comme on les appelle. Mais répondez pour vous-même, vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette vie? Quel est l'objectif que vous poursuivez avec le plus d'ardeur dans votre vie? Quel est le désir tout au fond de votre cœur qui est à l'origine de toutes vos actions? On a tous plusieurs rêves qu'on chérit, plusieurs objectifs qu'on estime importants dans la vie. Pour certains, peut-être pour les plus jeunes, moi je dirais, c'est le désir de rencontrer un conjoint, une conjointe idéale pour former un couple, établir une famille, avoir des enfants, avoir la joie d'avoir une famille. Pour d'autres, c'est d'avoir une belle carrière, carrière prospère, qui nous permet d'être confortable dans la vie, nous procurer un certain confort. Pour certains, c'est de s'amasser une belle caisse de retraite pour avoir des jours un peu plus heureux vers la fin de nos jours, qu'on puisse profiter des voyages, profiter de la vie. Après tout, on a travaillé toute la vie, on peut mettre de côté puis en profiter à la fin. Pour les plus âgés, c'est peut-être de voir leurs propres enfants avoir des enfants, pour avoir des petits-enfants, avoir la joie de les gâter, de les voir grandir. Qu'on le veuille ou non, on a tous des rêves, des aspirations, des objectifs, des buts qu'on poursuit dans notre vie. Et notre vie est centrée vers la poursuite de ces objectifs-là. Mais qu'est-ce qui, au fond de notre cœur, nous motive à vouloir vivre toutes ces belles expériences-là? Qu'est-ce qui, au fond de notre cœur, est à l'origine de tous ces rêves et ces aspirations? Est-ce qu'on peut identifier ou mettre le doigt sur un seul désir au fond de notre cœur qui nous pousse à poursuivre ces objectifs-là? Eh bien, plusieurs philosophes dans l'histoire de l'humanité se sont penchés sur la question, n'est-ce pas? Les philosophes regardent le comportement humain, examinent l'univers qui nous entoure et essaient, se posent des questions sur la vie et essaient de répondre à des grandes questions. Parmi tous les philosophes, certains ont dit des choses intéressantes, d'autres un petit peu moins. Mais une explication de ce motif derrière toutes nos actions a été donnée par Blaise Pascal, un philosophe au 17e siècle, dans les années 1600. Voici ce que dit Pascal sur la principale motivation des êtres humains. « Tous les hommes désirent d'être heureux, cela sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et que l'autre n'y va pas, c'est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais de démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui se tuent et se pendent. » Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Tous les hommes désirent être heureux sans exception. Et je pense que la pensée de Pascal sur la motivation ultime des hommes et des femmes autour de nous est très juste. Quand je regarde ma vie, c'est vrai qu'il y a plusieurs choix que je fais, et si ce n'est pas tous les choix, tendent vers ce désir d'avoir du bonheur et d'être heureux, le bonheur que je peux en retirer derrière ces actions-là. Lorsqu'on y pense, ça fait du sens, n'est-ce pas? Mais si on prend la question dans l'autre sens, on peut faire l'avocat du diable et essayer de dire « Ah, c'est-tu vraiment ça le motif derrière toutes mes actions? » On peut se poser la question ce matin. Qui ici ce matin pourrait dire que son plus grand désir est d'être malheureux dans la vie? Non, mais c'est vrai. Qui d'entre vous se lève le matin, s'en va devant le miroir, pour ceux qui y vont, se font une beauté, et devant le miroir se disent « Et que j'aimerais ça que ça aille mal aujourd'hui. » Peu d'entre nous, je pense, désirent ça, n'est-ce pas? Et déjà de dire « J'aimerais que ça aille mal », peut-être que tu en tirerais un petit bonheur, un petit plaisir, mais je pense pas. Je pense que ce qu'on désire, ce qu'on cherche, c'est notre bonheur. Le désir le plus profond en nous, c'est d'être heureux et de trouver le bonheur, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on regarde les gens autour de nous, même si la plupart des gens pourraient peut-être s'estimer heureux dans la vie, il y en a plusieurs qui souffrent ou qui sont malheureux. Et même parfois, nous-mêmes, en tant que croyants, on peut vivre des moments dans la vie où on ne s'estime pas heureux du tout, où on a de la difficulté à avoir de la joie, à trouver notre bonheur. Tout comme les gens autour de nous qui recherchent le bonheur et n'arrivent pas à le trouver, nous aussi, ça arrive qu'on est malheureux. Pourquoi? Si on veut tous être heureux et obtenir le bonheur, pourquoi avons-nous de la difficulté, tant de difficultés à atteindre ce but, à être heureux? Que faut-il faire pour obtenir le vrai bonheur? Heureusement pour nous, le Seigneur nous connaît. Il sait de quoi nous sommes formés, c'est lui qui nous a créés. Et il sait qu'on cherche ça. Il sait que ces désirs-là est dans l'homme d'être heureux, d'avoir du bonheur. Et il nous a laissé sa parole pour qu'on puisse savoir comment faire pour arriver au vrai bonheur. Dans la Bible, on voit que ce désir que nous avons en nous était dans les hommes qui nous ont précédés. Et depuis le début des temps, depuis la création, les hommes cherchent à être heureux, à combler ce désir qui est au fond d'eux. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu aussi a cherché à obtenir son bonheur. Mais ce matin, on va voir un passage qui raconte comment, dans l'histoire d'Israël, un certain événement, un événement où le peuple de Dieu cherchait son bonheur, mais il ne l'a pas trouvé. Mais avant de lire le passage de ce matin dans le prophète Agée, j'aimerais vous mettre en contexte. Qu'est-ce qui se passe dans Agée avant de lire le passage? C'est important d'avoir le contexte historique de qu'est-ce qui se passe. Parce que les prophètes, après tout, ils parlaient aux gens de leur époque. Et c'est important pour nous de se placer dans ce contexte-là. Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, les avait rachetés de l'esclavage, les avait libérés de l'esclavage. Et puis, dans le désert de Sinaï, Dieu a donné sa loi, ses commandements, ses ordonnances, et a établi une alliance avec le peuple d'Israël. Cette alliance-là, c'était pour que le peuple soit béni, pour que le peuple soit béni de Dieu par l'obéissance à la loi et les ordonnances que Dieu leur avait données. Mais au cours de l'histoire d'Israël, vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, on voit à maintes et maintes reprises le peuple désobéissant à la loi de Dieu, et Dieu vient et punit son peuple. Mais à un moment donné, le malheur est tellement à son comble, le peuple est tellement désobéissant et ne comprend pas que Dieu veut qu'ils obéissent, que Dieu est obligé de détruire complètement le royaume d'Israël, de le détruire, et puis il va prendre ses enfants, le peuple d'Israël, et ils vont être déportés à Babylone. OK? Et ça, à cet événement-là, les Babyloniens viennent, déportent les enfants d'Israël, Jérusalem est rasée, le temple est complètement détruit, Dieu est en train de juger son peuple. Mais par la bouche de Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu avait dit que cette période-là de déportation durerait 70 ans et qu'après cette période-là, Dieu ramènerait son peuple dans la terre promise, le restaurerait, et le peuple pourrait louer Dieu à nouveau. Le temple serait restauré. Et là, on se trouve dans cette période-là dans Agée, dans la période du retour de l'exil, de la déportation à Babylone. Environ 50 000 Juifs reviennent à Jérusalem avec le mandat de rebâtir le temple et de restaurer le lieu de culte à Dieu et pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu. Ils ont été punis, maintenant on revient. Dieu donne sa grâce, ils peuvent revenir et maintenant servir Dieu à nouveau. Et c'est ce qu'on voit dans Agée. En fait, on voit que le peuple était heureux. En fait, c'est plus dans Esdras qu'on voit toute l'histoire du retour de l'exil. Mais le peuple était heureux de pouvoir revenir. Il n'était plus obligé de vivre ailleurs, mais il pouvait venir restaurer leur culte à Dieu. Et le peuple éprouvait un certain bonheur face à ça. Par contre, quelques années après le retour de l'exil, il semble que la joie qui animait leur cœur se soit changée en tristesse. Ceux qui croyaient retrouver le bonheur en retournant dans leur terre natale et dans la terre promise ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Eh bien, ce matin, nous allons voir ensemble qu'il est important et qu'il est parfois possible pour le peuple de Dieu de ne pas chercher son bonheur au bon endroit. Des événements importants dans nos vies nous font en sorte qu'on ne cherche pas le bonheur au bon endroit. Cependant, Dieu nous donne les instructions à suivre pour qu'on puisse être réellement heureux. Et c'est maintenant que nous allons lire dans le prophète Agée. J'ai entendu des pages tourner, j'imagine que vous avez trouvé pendant que je discutais. Agée, c'est dans les petits prophètes, et c'est à partir de la fin de l'Ancien Testament, c'est le troisième livre. C'est plus facile comme ça à chercher. Vous partez par la fin, vous êtes dans Matthieu, par exemple, Malachie, Zacharie, puis vous tombez dans Agée. Et nous allons lire maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, pourquoi ils ont perdu cette joie. Agée, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette demeure est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez peu et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Le peuple d'Israël, en fait, était revenu de l'exil et avait commencé la construction du temple. Et puis, on voit particulièrement, comme je disais, dans le livre d'Esdras, qu'au moment où ils ont commencé à construire le temple, les nations qui vivaient autour du peuple d'Israël à ce moment-là, qui avaient pris comme le territoire du temps de la captivité, causaient de l'oppression, persécutaient les enfants d'Israël à cause de la construction du temple. Et à cause des persécutions, les enfants d'Israël ont arrêté la construction du temple. Le temple, c'était quelque chose d'important à l'époque, surtout pour les Juifs et pour le peuple d'Israël, car c'était la maison de Dieu. Le temple représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et c'est là que Dieu régnait pour son peuple. Et on voit ça à plusieurs endroits dans les psaumes, que Dieu avait son trône au temple, au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu régnait, et que le peuple laissait Dieu régner au milieu de son peuple, celui-ci était béni. Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes qu'après les déportations, le temple serait restauré, et puis pour cela, le peuple avait commencé à reconstruire le temple. Mais lorsqu'on regarde ce que signifiait un temple dans l'ancien Moyen-Orient, dans l'histoire de l'ancien Moyen-Orient, on réalise que le temple n'était pas simplement un lieu de culte. Il se passait plusieurs choses dans le temple. Entre autres, c'était des endroits pour exercer la justice et d'autres choses. Et le temple avait une signification spéciale, pas juste pour Israël, mais pour les autres nations autour. Le temple représentait, en fait, était aussi, je pourrais dire, pour des raisons politiques, c'était très utile. Pourquoi? Parce que le temple représentait la présence divine au milieu du peuple. Peu importe les nations avaient un temple au milieu de leur ville, et par la présence divine, c'était une sorte d'intimidation pour les autres nations, et ça montrait que nous, on a l'autorité qui vient de Dieu. Alors, lorsqu'on connaît ces choses-là, est-ce qu'on connaît un petit peu cet arrière-plan-là, on peut comprendre pourquoi les autres nations ont commencé à opprimer Israël pour la construction du temple. On le voit même dans Esdras. Ces enfants-là d'Israël, ils bâtissent le temple. C'est parce qu'ils veulent se rebeller. Ils veulent se rebeller contre le roi des Mèdes et des Perses, l'empire des Mèdes et des Perses qui régnait. C'est à cause de ça qu'ils bâtissent un temple. C'est parce qu'ils veulent se rebeller. Ils ne veulent pas accepter l'autorité des Mèdes et des Perses. Et si on les laisse construire le temple, ils vont se rebeller puis ils vont nous causer du trouble. Donc, il y avait des persécutions pour la construction du temple. Et le peuple, à cause de l'oppression, avait arrêté les travaux de la maison de Dieu et s'était tourné vers la construction de leur propre maison. C'est ce qu'on voit dans le texte. Ils s'étaient plutôt tournés vers leur propre confort. Après tout, on construit la maison de Dieu, on est persécuté, on va arrêter un petit peu, on va s'occuper de nos affaires, parce qu'après tout, ça fait 70 ans qu'on n'est pas ici. On va rebâtir nos maisons, restaurer l'agriculture, restaurer nos fermes, notre bétail. On va s'installer, puis on fera ça plus tard. Mieux vaut attendre un peu. Pas maintenant, que le peuple disait. Sauf qu'au temps du prophète Agée, ça faisait 15 ans que les travaux avaient été interrompus. Et le peuple disait, pas maintenant. Et plutôt que de mettre la volonté de Dieu en priorité, le peuple avait décidé de mettre son confort en priorité. Il remettait la construction du temple à plus tard, pour pouvoir vivre en paix. Ils cherchaient leur petit bonheur personnel. Puis quand on parlait de faire la volonté de Dieu et de reconstruire le temple, le peuple disait, « Pas maintenant, le temps n'est pas venu, on va faire ça plus tard. » Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça nous représente un petit peu parfois nous aussi. On risque d'être un petit peu parfois comme le peuple d'Israël à l'époque. Il nous arrive qu'on néglige de faire la volonté de Dieu pour nous occuper de nos propres affaires. Évidemment, le Seigneur n'est pas en train de nous demander de reconstruire le temple. Le temple qui a été reconstruit a été rasé en 70, il a été détruit par l'Empire romain, par Néron, entre autres. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu veut qu'on se lance dans un projet de bâtiment. Loin de moi l'idée de faire ce parallèle-là. Peut-être indirectement, mais encore. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le temple aujourd'hui? Jésus lui-même est le temple. C'est lui qui a dit, en parlant de sa résurrection, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et nous qui avons accepté Christ dans nos cœurs par la foi, nous sommes, nous aussi, un temple où Dieu habite, un temple où l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous, son Église. On peut lire dans Éphésiens 2, les versets 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En fait, la volonté de Dieu pour nous, si on regarde Éphésiens, le livre aux Éphésiens, c'est qu'on soit édifié ensemble, son Église. Et nous sommes le temple de Dieu, où Dieu habite. Comment qu'on fait ça pour s'édifier? Premièrement, on prêche la parole de Dieu. On prêche le merveilleux évangile de Jésus-Christ. On veut former des disciples. On veut leur enseigner la parole pour qu'ils puissent observer ce que le Seigneur nous a enseigné. Et c'est le mandat que le Seigneur a donné à son Église, d'être un temple qui s'édifie lui-même, où Dieu peut habiter, un lieu d'adoration pour Dieu, pour Dieu en Église. Et c'est pas seulement aux responsables de l'Église de s'occuper de ça, mais c'est à chacun des disciples que Dieu a donné cette responsabilité-là. C'est ensemble qu'on doit travailler pour qu'on soit édifié en accomplissant ce que le Seigneur nous a demandé. Quand le Seigneur Jésus a donné ce commandement-là, il l'a donné à tous ses disciples pour qu'ils lui obéissent. Et c'est maintenant qu'on doit obéir à cela. Mais il arrive parfois qu'on dise, « J'ai pas le temps, je suis trop occupé, pas maintenant, le temps n'est pas venu. » En fait, le passage dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, nous montre que c'est pas quelque chose qu'on peut remettre à plus tard. C'est quelque chose qu'on doit faire maintenant. S'édifier ensemble et continuer l'œuvre que Christ nous a demandé de faire et que Dieu nous demande de faire. Ainsi, comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est possible que dans notre poursuite du bonheur, dans la poursuite de notre confort, on soit en train de négliger de faire la volonté de Dieu et qu'on dise pas maintenant, à plus tard, on va remettre ça. Par contre, lorsqu'on néglige de faire la volonté, on n'aura pas le choix. Il va falloir s'attendre à ce que Dieu envoie des épreuves et des gens pour nous reprendre. Et c'est ce qu'on voit dans le passage, dans les versets 5 à 11. Dieu a envoyé des épreuves au peuple d'Israël parce qu'ils étaient occupés à faire autre chose que sa volonté. On voit au verset 6, 9 et 11 que Dieu avait éprouvé le peuple à cause de sa désobéissance. Le peuple était occupé à travailler pour leur propre maison, à travailler fort pour restaurer leur terre et satisfaire leurs besoins. C'est ça qu'ils cherchaient, dans le fond. Ils cherchaient à satisfaire leurs besoins. Mais malgré tous leurs efforts, le peuple de Dieu avait faim. Il avait soif. Il réussissait pas à ramasser beaucoup d'argent. Le texte nous dit que l'argent tombait comme dans un sac percé. Il ramasse l'argent, puis oups, elle disparaît. Plus d'argent pour s'acheter de quoi manger, même. Et le peuple était malheureux. C'était une épreuve que Dieu avait envoyée. Dans sa souveraineté sur la création, il avait empêché la terre de produire. C'était comme une famine. Il ne pouvait pas être rassasié. Et c'est de Dieu que venait cette épreuve-là. Parce qu'il ne s'était pas occupé de construire la maison de Dieu. Il ne s'était pas occupé de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on cherche à procurer notre propre confort, procurer de satisfaire nous-mêmes, notre propre bonheur par nous-mêmes, il faut s'attendre à ce que Dieu envoie des épreuves. Il faut s'attendre aussi à ce que Dieu envoie des gens, des fois, pour nous reprendre. Et Dieu parle à travers le prophète Agée, au chef et au reste du peuple, pour les reprendre. Qu'est-ce que c'est le message de Dieu? Premièrement, il leur dit, deux fois dans le texte, « Considérez attentivement vos voies. » On voit ça au verset 5 et 7. En d'autres mots, pense à ton affaire. Réfléchis à ta vie. Regarde ce qui est en train de t'arriver, puis pose-toi des questions là-dessus. Deuxièmement, le Seigneur explique au peuple que c'est à cause qu'ils ont négligé la construction du temple que tous ces malheurs leur arrivent. C'est parce qu'ils ont négligé de faire sa volonté. Il dit, vous vous êtes empressés pour votre propre maison. Vous avez passé vos priorités avant les miennes. Et finalement, il leur dit, « Vous dites que ce n'est pas le temps, mais moi, je vous dis que c'est le temps de bâtir ma maison. Mettez-vous à l'œuvre, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. » Verset 8. C'est maintenant le temps d'obéir et de passer à l'action. Et Dieu, parfois, envoie des épreuves et des personnes sur notre route pour nous reprendre. Même si le châtiment de Dieu, parce que des fois, on peut vivre des épreuves à cause que c'est un châtiment qui vient de Dieu, même si ça peut être parfois difficile, c'est pour notre bien que Dieu fait ça. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Et si on poursuit une mauvaise voie dans notre recherche du bonheur, le Seigneur, c'est pas ça que je veux pour toi. Tu vas être malheureux par là. Viens-t'en par ici. Viens-t'en par là. C'est comme ça que tu vas être heureux si tu me fais ma volonté. Il ne faut pas voir la correction de Dieu dans notre vie comme quelque chose de mauvais, de décourageant. Et on voit ça, entre autres, dans Hébreux 12. Au contraire, c'est pour notre bien que Dieu nous châtie. C'est pour notre bien que Dieu envoie des épreuves, parfois. Peut-être que tu vis des épreuves ces temps-ci. Puis je ne suis pas en train de dire que toutes les épreuves sont nécessairement un châtiment de Dieu. Dieu peut envoyer des épreuves simplement parfois pour nous former. Je ne pense pas que Job... merci. C'est bon. Je ne pense pas que Dieu avait envoyé une épreuve à Job pour le punir. Mais Dieu a enseigné des choses à Job, par exemple, à travers cette épreuve-là, n'est-ce pas? Mais ça arrive que Dieu envoie des épreuves pour nous châtier. C'est le sujet du texte de ce matin. Est-ce que Dieu envoie des épreuves présentement dans ta vie qui sont là pour te ramener à la bonne place? Dieu utilise parfois aussi sa parole pour nous reprendre. Et la prédication le dimanche matin, où on vient entendre l'enseignement, la parole de Dieu exposée, décortiquée pour qu'on puisse le saisir, le comprendre, comprendre sa volonté pour nous. Mais ça se peut qu'après tant d'années de vie chrétienne, tu es ici, tu viens dimanche après dimanche, puis on dirait que la parole de Dieu n'a plus le même effet dans ton cœur. Ça ne te parle pas comme avant. Puis après tout, lorsque tu le considères, puis tu l'avoues à toi-même, tu te l'avoues, je suis indifférent un peu à ce que j'entends le dimanche matin. Mais Dieu est en train de parler par la prédication. Dieu veut te parler par sa parole. Dieu veut te reprendre. Es-tu indifférent à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut te dire? Peut-être qu'un frère ou une sœur est venu pour te reprendre dernièrement à cause que tu étais dans un péché quelconque. Comment tu as réagi à ça? Parce que c'est leur responsabilité à eux aussi, lorsqu'on n'est pas dans la bonne voie, de venir nous reprendre pour qu'on aille dans la bonne voie et qu'on puisse être heureux. L'exhortation du Seigneur pour nous, c'est la suivante. Considérez attentivement vos voies. Peu importe où on est actuellement dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, il nous dit, réfléchis un peu à tes attitudes, à tes actions par rapport à ma volonté. Est-ce que tu recherches ton bonheur à la bonne place? Le peuple de Dieu ne cherchait pas son bonheur à la bonne place. Puis il faut nous aussi réfléchir et considérer si on est en train de chercher notre bonheur à bonne place. Parce qu'en cherchant le bonheur au mauvais endroit, on peut s'attirer le malheur à la place et la réprimande de Dieu. Maintenant, vous vous dites, c'est beau, je comprends, c'est possible que je ne sois pas en train de chercher à la bonne place. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je peux trouver le vrai bonheur? Chers amis, le vrai bonheur, c'est pour celui qui fait la joie de son Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 8. Lorsque le peuple vient pour... Si le peuple vient et obéit à Dieu, Dieu dit, « J'en aurai de la joie et je serai glorifié. » Le vrai bonheur est pour celui qui fait la joie de son Dieu. À la prédication d'Agée, le peuple réalise son péché, réalise qu'il n'a pas bâti la maison de Dieu. Ils sont saisis de crainte. Ils ont eu la bonne réaction face à la réprimande que Dieu envoie. Au verset 12, on voit ça. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et on voit que Dieu, dans sa grâce, vient les rassurer. Ils sont saisis de crainte. Ils ont peut-être peur parce que, écoute, on a vécu un châtiment dernièrement. On a été déporté à Babylone, puis là, on revient, puis on est encore en train de tomber dans les mêmes péchés. Est-ce que Dieu va nous châtier encore? Mais Dieu voit leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 13? « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. » L'Éternel rassure le peuple de sa présence. Il leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. « Je suis avec vous. » Et le Seigneur fait quelque chose d'impressionnant qui démontre que sa présence est vraiment là. Et qu'est-ce que c'est? Verset 14. « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. » Le Seigneur leur fait part de sa grâce. Il leur dit « Obéissez à ma voix. » Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? « Je suis avec vous. » Et Dieu démontre sa présence en venant réveiller leur cœur, en venant rendre leur cœur obéissant à Dieu. Le Seigneur leur dit, « Lâchez pas, travaillez, je suis avec vous. » Et on voit ça au chapitre 2, entre autres. On n'aura pas le temps d'aller voir les versets du chapitre 2, mais Dieu dit, lâchez pas, travaillez, mon esprit est avec vous, je vais être fidèle à mon alliance. Et Dieu vient bénir le peuple, parce que le peuple est saisi de crainte devant Dieu. Le peuple a la crainte de Dieu. Ainsi, le peuple est béni et heureux de la présence de Dieu. Et Dieu les aide à accomplir sa volonté. Dieu leur donne la capacité de lui obéir. Ainsi, on apprend par là que le vrai bonheur est pour celui qui cherche à faire la joie de son Dieu. Lorsqu'on se soumet au Seigneur, il nous assure de sa présence et nous donne la capacité de lui obéir. Lorsque le Seigneur nous reprend, on doit faire comme le peuple. On doit s'humilier devant Dieu, admettre notre péché et retourner à une crainte de Dieu. On ne doit pas rester insensible à sa voix. On doit réaliser notre péché et on doit retourner à lui. On doit soumettre notre cœur à sa volonté et être prêt à lui obéir. Et lorsqu'on est prêt à lui obéir, on peut compter sur sa présence dans notre vie et sur sa puissance pour qu'on puisse obéir à sa voix. Lorsqu'on accomplit la volonté du Seigneur et l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire sur la terre, on va vivre des persécutions. Il se peut qu'on soit tenté de se relâcher, dire « c'est dur, je ferai ça plus tard ». Mais le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Le Seigneur nous a donné son esprit pour nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Son esprit, c'est la puissance qui agit en nous et qui nous rend capables de lui obéir, d'obéir à sa voix. Lorsque les disciples étaient attristés de voir que Jésus allait mourir, ressusciter et les quitter, Jésus les a rassurés. Et on voit ce passage-là dans Jean 14, les versets 15 à 18. Le Seigneur Jésus leur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. » Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et on voit plus tard dans l'histoire du Nouveau Testament que le Seigneur a donné son esprit à tous ceux qui avaient placé leur foi en lui pour le pardon de leurs péchés. Dieu avait donné son esprit, Dieu a donné son esprit à son peuple. Il ne les a pas laissés seuls, il leur a laissé un consolateur qui va les conduire dans la vérité, leur donner la puissance d'obéir à sa voix. Et ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, à nous qui avons cru, avons placé notre foi en Jésus-Christ, c'est « Ne craignez pas, je suis avec vous. Avec moi, vous allez être capables d'obéir et d'être bénis. » Quand tu trouves difficile d'accomplir la volonté de Dieu, lorsque tu luttes dans l'obéissance à Dieu, parce que ça peut nous arriver, ça nous arrive tous. On lutte avec des péchés, on lutte avec des difficultés, des épreuves que Dieu envoie. Et on a la misère parfois de faire la volonté de Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous dit, « Je suis là. » Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se tourner vers lui. Et si présentement, dans ta vie, tu es en lutte, tu as un combat pour faire la volonté de Dieu, si tu as de la difficulté à faire sa volonté, tourne-toi vers lui, crie à Dieu, demande-lui que par son esprit, il puisse te ranimer, te rendre capable d'obéir à sa voix. Il t'a donné une puissance pour te rendre capable de le faire. Tourne-toi vers lui, humilie-toi devant lui, et dis, Seigneur, viens m'aider, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Aide-moi à obéir à ta voix, je veux être heureux. On doit s'humilier devant Dieu. On doit arriver et crier à lui pour pour que son esprit vienne nous rendre sensibles à sa volonté. Dieu veut qu'on jouisse du bonheur dans cette vie. Mais le bonheur que Dieu veut nous donner, c'est un bonheur éternel. C'est un bonheur éternel dans sa présence. Ce n'est pas juste un bonheur sur la terre. L'an dernier, pendant l'été, je suis allé à Louisville, au séminaire où j'étudie pour mes études théologiques. À Louisville, au Kentucky, c'est aux États-Unis. Puis, je prenais l'avion pour revenir. Et puis, je faisais une escale à Chicago. Et après ça, en revenant dans le vol Chicago-Montréal, j'ai eu l'occasion d'être assis à côté d'un homme avec qui j'ai pu commencer à discuter. Je lui posais des questions, d'où il revenait, dans quoi il travaillait, etc. Et puis, lui, ensuite, il me pose la même question. « Toi, d'où tu reviens? » Ben, je reviens d'un cours au Kentucky. Ah ouais, un cours. Ouais, j'étudie en théologie. Je vais approfondir la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir œuvrer dans le ministère, dans une église. Puis là, la conversation arrête un petit peu. Puis quelques secondes après, il se tourne vers moi et il dit, « Je suis heureux, moi. » Je dis, « Ah ouais? » Ah, il dit, « Oui, oui, je suis heureux. J'ai une bonne femme. J'ai des enfants avec qui je n'ai pas de conflit. Une belle harmonie dans notre famille. J'ai une bonne job qui me permet de ramasser quand même un bon salaire. Puis je suis confortable. J'ai un beau bateau. Je peux aller me promener les fins de semaine. Puis je suis heureux, moi. » Là, la question qui me vient en tête, je dis, oui, c'est vrai, c'est bien. Là, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que votre bonheur va durer éternellement? Lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, est-ce que Dieu va vous accepter dans sa présence pour que vous puissiez jouir du bonheur éternel ou vous allez être loin de sa face pour l'éternité? Et j'ai pu commencer à y présenter l'Évangile. Et on a commencé à parler quand j'ai embarqué dans l'avion et 2 heures après, on atterrit à Montréal puis on continuait à jaser. Mais tellement un bon temps avec ce monsieur-là. Mais ça se peut que toi, tu es ici ce matin, puis tu es comme ce monsieur-là, tu t'estimes heureux dans la vie. Je suis bien, moi. Je suis heureux. Bonne femme, bons enfants, bel job. Mais ton bonheur va-tu durer éternellement? Si tu estimes que tu peux être heureux sans Dieu, tu te trompes. Parce que Dieu dit qu'à cause de ce péché-là, de chercher ton bonheur ailleurs qu'en lui, à cause que tu n'appliques pas ton cœur à ses commandements, à l'aimer de tout ton cœur, à cause de ça, tu as transgressé la loi de Dieu et tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Tu es coupable envers la loi de Dieu, coupable de pécher contre Dieu, et Dieu ne peut pas accepter le péché dans sa présence. Et à cause de ça, tu es séparé de Dieu, mort pour l'éternité, mort spirituelle pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, on a célébré ça tantôt, a envoyé son Fils sur la terre pour mourir sur la croix, pour que tu puisses être pardonné de ces péchés-là et vivre une relation avec Dieu et être béni pour l'éternité. Mais tu as besoin de reconnaître ça. Tu as besoin de reconnaître que tu as péché devant Dieu. Tu as besoin de reconnaître que ton péché te sépare de Dieu pour l'éternité et que Jésus-Christ seul peut te donner accès à la présence de Dieu et au bonheur de la vie éternelle. Si tu n'as jamais fait réaliser cela dans ta vie, arrête-toi et dis, demande pardon à Dieu de t'être rebellé contre lui, d'avoir cherché ton bonheur ailleurs qu'en lui. Demande au Seigneur que par le sang de Christ, il vienne te pardonner et accepte par la foi la vie éternelle qu'il t'offre. Le vrai bonheur, c'est pour celui qui fait la joie de son Dieu. Et comment on peut s'assurer pratiquement dans nos jours, dans la vie de tous les jours, qu'on est en train de plaire à Dieu? Premièrement, ce qu'on a vu dans le texte, c'est qu'il faut considérer nos voies. Il faut réfléchir à notre vie et sur les choix qu'on est en train de faire. On peut faire bien des choix dans la vie qui nous amènent en dehors du bonheur que Dieu veut pour nous et on doit s'examiner. Tu es peut-être célibataire, découragé de ne pas avoir encore trouvé de conjoint. Puis, lorsqu'on est chrétien, des fois dans l'Église, on ne trouve pas facilement nécessairement quelqu'un avec qui on pourrait faire notre vie. Puis on a une tendance à vouloir peut-être aller voir des gens, des amis dans le monde et peut-être se lier d'amitié et que ça aille plus loin avec les gens du monde. Ça m'est arrivé, pas de tomber en amour, mais ça m'est arrivé de passer proche, par exemple, qu'une fille tombe en amour avec moi parce que j'étais trop proche. On est tenté. J'ai été tenté comme vous. Si vous êtes célibataire puis vous luttez avec cette attente-là de vous marier, cherchez la face de Dieu, examinez-vous. Allez pas vers les gens du monde. Vous allez être malheureux comme ça. Dieu veut que vous soyez bénis. Dieu veut que vous ayez le bonheur. Dieu veut que vous ayez le bonheur aussi dans votre vie de couple, mais pour ça, il faut faire sa volonté. Les hommes, ce matin, une question pour vous. Est-ce que votre épouse, c'est la femme de votre jeunesse en qui vous placez votre joie? Ou faites-vous votre joie de d'autres femmes? Peut-être pas nécessairement des femmes que vous rencontrez, mais peut-être des femmes que vous consultez sur l'Internet ou quoi que ce soit. Est-ce que ta joie est dans la femme de ta jeunesse? Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Si on veut vivre une vie de couple heureuse, il faut faire la joie de notre femme, la femme de notre jeunesse, développer une intimité avec elle, apprendre à l'aimer. Pour les femmes, peut-être que tu as lancé la serviette avec ton mari. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu pries qu'il change, puis il ne change pas. Peut-être que tu ne veux pas te divorcer, mais dans ton cœur, tu as lancé la serviette, tu as dit « moi, je ne veux plus rien savoir ». Fait que tu vis un peu la vie comme ça, mais vous ne développez plus l'intimité ensemble. Le Seigneur demande d'aimer ton mari aussi, de redévelopper cette intimité-là pour que vous puissiez vivre ensemble à la gloire de Dieu. C'est ça sa volonté. Peut-être que tu as été impliqué dans un ministère dans l'Église, puis tu as été déçu des frères, des sœurs avec qui tu as travaillé. Tu as dit « off, je vais attendre à plus tard ». On va laisser ce monde-là passer, puis je reviendrai quand ils ne seront plus là. Dieu veut qu'on s'implique dans son Église aussi. C'est ça sa volonté. C'est qu'on, comme je disais tantôt, qu'on s'édifie ensemble pour qu'on mette ensemble, qu'on mette ensemble à l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'on s'examine, qu'on considère nos voies. Est-ce qu'on est en train de faire la volonté de Dieu? Et laissez-moi juste vous donner deux domaines dans nos vies où on peut vraiment s'examiner. Premièrement, dans la gestion de notre temps. Dieu nous a donné 24 heures par jour, 7 jours en semaine, puis 365 jours par année, puis on va peut-être vivre 70, 80 ans. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce temps-là que Dieu t'accorde? Or, on est bien occupé, mais il y a toujours un temps, là, Michel doit utiliser ce nom-là dans son cours de gestion de vie, du temps discrétionnaire, du temps libre pour moi, ou libre pour faire des choses que j'aime, des loisirs, etc. Comment tu utilises ton temps discrétionnaire pour Dieu? Est-ce que tu l'utilises pour sa gloire? Est-ce que tu es en train de faire sa volonté dans la gestion du temps que Dieu te donne? Dans tes finances, Dieu nous confie les ressources financières. Le Seigneur pourvoit nos besoins en nous donnant l'argent, qu'on puisse se procurer ce qu'on a besoin. Mais il est aussi possible de mal utiliser notre argent. As-tu fait des choix financiers dans les dernières années qui t'empêchent de t'investir dans l'œuvre de Dieu financièrement? As-tu placé Dieu à la dernière place dans ton budget ou à la première place? Ton bonheur dépend de ça aussi. On doit tous être des bons dispensateurs des grâces que Dieu nous donne. On doit être prêt à considérer nos voies, se remettre en question, évaluer notre budget pour voir si on est dans la volonté de Dieu. Et cette semaine, je réfléchissais sur ce passage-là. Je me suis remis en question. J'ai regardé mes finances personnelles. Puis dans ma tête, il me semble que ça faisait longtemps que je n'avais pas donné ma dîme. J'ai regardé mes relevés mensuels. Puis j'ai vu que le Seigneur ne figurait pas sur mon relevé mensuel le mois dernier. C'est quoi la volonté de Dieu? Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Tes greniers vont être remplis d'abondance. J'ai demandé pardon à Dieu, puis ce matin, je me suis mis en règle avec Dieu dans ma dîme, mes offrandes, puis j'espère que le Seigneur va me bénir. Si je place Dieu en premier dans mon temps, dans mon argent, je vais être en train d'accomplir sa volonté, et puis je vais être béni. Il faut considérer nos voies, mais il faut aussi chercher à connaître ce qui plaît à Dieu. Il faut prendre du temps dans sa parole, il faut prendre du temps pour venir à l'Église et être enseigné dans sa parole pour qu'on puisse avoir au moins la connaissance de qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Troisièmement, il faut être soumis entièrement à Dieu. Le peuple a entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était saisi de crainte. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Et peut-être que des fois, tu lis des choses dans la parole, puis peut-être que Dieu est en train de te parler présentement, puis il te demande de faire des choses peut-être contraires à ce que ça te tente de faire. Es-tu prêt à réévaluer tes choix pour te mettre à l'œuvre pour la volonté de Dieu? Finalement, après qu'on soit soumis à Dieu, il faut se mettre à l'œuvre et obéir au Seigneur en comptant sur sa présence dans nos vies. Pas simplement d'écouter, mais il faut agir. C'est maintenant qu'il faut faire l'œuvre de Dieu, c'est maintenant qu'il faut faire la volonté de Dieu, parce que le vrai bonheur est pour celui qui fait la joie de son Dieu, pour celui qui fait la volonté de son Dieu. On peut chercher le bonheur à plusieurs endroits, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on cherche à lui plaire, qu'on cherche en lui notre joie, qu'on cherche à le glorifier. Puis en faisant ça, on va être heureux, on va avoir le vrai bonheur qui va durer éternellement. On va jouir des bénédictions éternelles que Dieu nous offre. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire-t-il être heureux? Sois un sujet de joie pour ton Dieu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que dans l'Ancien Testament, même dans les passages qu'on ne lit pas souvent, Seigneur, tu nous parles. Tu nous demandes, Seigneur, que notre cœur soit entier pour toi. Qu'on ne cherche pas notre bonheur ailleurs qu'en toi. Tu nous demandes de chercher à faire ta volonté, puis c'est comme ça qu'on va être béni. Qu'on puisse faire de toi, Seigneur, le sujet de notre joie. Que chacun de nous, individuellement, dans toutes nos vies, on soit prêt à considérer nos voies, considérer à ta volonté, se soumettre à toi et t'obéir. Seigneur, que l'Église de l'espoir, ensemble, on puisse travailler à ton œuvre. C'est ça ta volonté pour nous. On puisse continuer de gagner des âmes pour toi, qu'on puisse continuer de prêcher ce merveilleux Évangile. Seigneur, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies. On veut que toute notre vie soit à toi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.